savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Ravi de vous retrouver pour cette première émission de la rentrée avec une affiche très française, une fois n'est pas coutume. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Sophie, vous rentrez du festival du film francophone d'Angoulême, un festival qui s'est tenu cette année dans des conditions très particulières. Masques, gel hydroalcoolique, précautions sanitaires diverses et variées, mais pour compenser une affiche riche comme jamais, riche entre autres de tous les films français, hein, de beaucoup de films français qu'on aurait dû voir en mai dernier au Festival de Cannes, festival annulé pour cause d'épidémie. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais avant, on va vous parler d'un film qui nous a éblouis, Sophie et moi, éblouis et impressionnés. Bonjour Sophie Le Tourneur.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir en plateau dans tous les cinémas du monde. Votre nouveau film énorme est sorti en salle ce mercredi. Marina Foïs et Jonathan Cohen sont Claire et Frédéric, un couple sinon parfait, du moins parfaitement complémentaire. Claire est pianiste virtuose et Frédéric est tout pour elle, son ami, son amant, son mari, son homme à tout faire, son impresario, son attaché de presse, son garde du corps, et je suis sûre que j'en oublie. Leur couple s'est cimenté sur cette conviction, ils n'auront pas d'enfants. Mais voilà que tout se lézarde lorsque la quarantaine venue, l'envie d'un bébé devient impérieuse. Pas pour Claire, mais pour Frédéric, qui en devient obsédé. Comment va-t-il arriver à faire un enfant dans le dos de Claire, si je puis dire? C'est le début de votre comédie, Sophie Le Tourneur. Énorme, énorme comme bientôt le ventre de Claire, votre héroïne. Alors pour les auditeurs de tous les cinémas du monde, nous allons en commenter les 10 premières minutes. Énorme, première bobine, c'est parti.
Claire Gérard, vous connaissez peut-être?
Non, mais...
célèbre pianiste? Non, vous ne connaissez pas?
Musique classique.
Claire Gérard, des meilleurs pianistes au monde. Il y en a 5 quand même, mais il y en a une.
Extérieur jour, un couple, Marina Foïs, Jonathan Cohen, Claire et Frédéric, hein, donc, arrivent dans un hôtel de grand luxe. On est à New York, la personne qui les reçoit parle à Claire, mais contre toute attente, c'est Frédéric qui répond.
Oh, Claire Gérard, welcome to Luxembourg. Such a great pleasure having you here. How are you?
I'm fine. We're fine.
Bah oui, c'est ça, je trouvais ça marrant. C'est vrai que l'idée, c'est de montrer comment dans le couple, lui est un espèce de rempart, et en même temps, c'est le lien, l'écran un petit peu qu'il y a entre le monde et Claire. Et j'avais envie de montrer comment, dans ce couple qui fonctionne bien, parce qu'il fonctionne sur les fragilités de chacun des deux, et de comment chacun est le bourreau de l'autre, un petit peu.
You are the one we talked on the phone, right?
Yes,
we talked. Ah, le bourreau, et en même temps le bourreau dire. Très protecteur.
Oui, hein, le bourreau dans le sens où il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. C'était ça l'idée, c'est-à-dire qu'on peut se dire ah bah dis donc la pauvre, il parle à sa place, elle a l'air toute réservée derrière, etc. Mais qu'en fait, souvent dans le couple, chacun nourrit les fragilités de l'autre et c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vrai que lui. Il a pas le don de Claire d'artiste, mais il vit la vie d'artiste grâce à elle. Et il s'enfonce encore plus dans sa névrose parce que plus il vit sa vie à elle et moins il développe la sienne. C'est ce qui va par ailleurs lui donner envie d'avoir une vraie place et un vrai rôle pour donner à quelqu'un d'autre, enfin à ce bébé quoi en tout cas. Et elle, on peut imaginer que comme beaucoup de grands pianistes, elle ait un côté un petit peu autiste. Elle vit dans un monde très abstrait, très intellectuel. Souvent les grands pianistes, c'est des gens qui n'ont pas eu une enfance normale. Enfin voilà, ils peuvent être un petit peu en apesanteur comme ça. Et grâce à cet homme, elle va réussir à continuer d'être dans son monde et il va faire tout le relationnel à sa place. Mais du coup, elle s'enfonce encore plus, elle aussi, dans ses névroses, quoi. C'est ça que je voulais montrer, comment on trouve des arrangements, mais ces arrangements-là, ils nous font pas vraiment avancer, quoi.
Hi. Hello, good afternoon.
Nice to meet you. So I'm Mr. Gérard.
Mr. Gerard.
Claire Gerard.
So you have booked a room with city view and some extra services included. Reservation for the Philharmonic Luftsammlung, right?
Yeah, exactly.
Would you need maybe a second pillow for after the show, sir?
The second pillow?
Yeah, the second pillow. You know, some artists are asking this when they come.
Ah, il y a un quiproquo, hein, elle, donc Claire Gérard, Jonathan Cohen qui répond à sa place, et voilà qu'on lui propose un second pillow, un deuxième oreiller.
Ouais.
Mais c'est quoi alors?
Alors en fait, pour préparer le film, j'ai rencontré plein de pianistes. J'adore faire des grandes enquêtes, donc ça a duré à peu près un an. Et de fil en aiguille, donc je pose plein de questions. J'ai rencontré des pianistes hommes, des pianistes femmes, enfin voilà, toutes sortes de personnes, aussi d'autres musiciens, des impresarios. Via la Philharmonie, j'ai même fait un documentaire sur Jacques Thélène, parce que c'était son anniversaire, mais il a peut-être jamais pu comprendre pourquoi j'avais fait ce documentaire cadeau pour lui.
C'est qui Jacques Thélène?
C'est un agent de musique classique. C'est l'agent de Martha Argerich, de Capuçon, de Nicolas Angelich, de Katia Bougnatichvili.
Donc un très grand agent.
Voilà. Et donc on me dit, bah tiens, il y a un concert à la Philharmonie pour l'anniversaire de Jacques et il y aura tous ces artistes. Et donc je dis, ah bah tiens, je vais lui faire un film cadeau, comme ça je vais interviewer tous les grands pianistes sur leur relation avec leur impresario et ça va me servir pour mon film. Et on m'a raconté, entre autres, donc que ça arrivait, mais alors plutôt pour les pianistes hommes, donc c'est une pianiste femme qui m'a raconté ça, qu'on propose à l'hôtel un second pillow. Alors moi je dis, ah bon, c'est quoi un second pillow? Complètement naïve.
Alors voilà, dites-le nous.
Bah, c'est une prostituée, voilà, après le spectacle, le concert. Quoi.
C'est une call girl.
Une call girl.
Alors, intérieur, jour, couloir, valise, entrée dans la suite, hein, toujours de très très grand luxe. Et puis là, on a un mouvement de caméra très étonnant puisque vous accompagnez le regard de l'un des personnages, Jonathan Cohen, vers l'Empire State Building,
ouais,
puisqu'on est à New York. Et ça, vous adorez ça, Sophie Le Tourneur, c'est-à-dire zoomer sur un personnage ou vous rapprocher au plus près de son regard.
T'as vu la vue?
Ouais. C'est sublime.
Je crois qu'on n'a jamais été aussi proche d'Empire State.
Génial. J'ai
l'impression qu'on peut le toucher. T'es contente?
Ouais. Faut que je travaille.
C'est vrai que voilà. Des fois, je trouve que les inserts, ça peut être vraiment très comique et en même temps très poétique. Et comme je viens de la peinture, moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai fait les arts déco. Je pense que les inserts, je les vois vraiment comme des natures mortes. Et je trouve que ça peut être... comment dire, c'est pas juste une précision comme ça à rapporter, enfin, ça a beaucoup de sens, c'est juste beau comme plan, quoi. Donc c'était ça l'idée. Et puis en plus, je trouvais ça intéressant, vu que le film parle beaucoup du sexe féminin, mais aussi du sexe masculin, de montrer cet énorme phallus, quoi, enfin, la puissance du phallus, parce que le film parle quand même de la puissance de la matrice, dont on ne parle pas si souvent.
Tu remarques rien, là?
T'es beau?
Hein?
T'es beau?
Non, je suis moche.
Non, t'es pas moche.
Tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui a changé? Quelque chose d'animal. Tu remarques rien, franchement, là? Y a pas un truc que tu te dis, tiens, c'est nouveau?
T'as un nouveau caleçon?
Oui.
C'est bien.
C'est vrai, ça te plaît?
Alors, plan suivant. Alors là, c'est plus une nature morte, mais c'est presque l'Olympia de Manet. Hein, c'est Jonathan Cohen dans son nouveau caleçon. un peu façon poster boy. Et elle, Marina Foy, c'est sur le canapé. Elle a une partition. C'est la partition d'un impromptu de Chopin, je crois. Et vous posez vraiment le regard de la femme sur l'homme qui se pose lui-même en objet sexuel.
Oui.
On est dans la totale inversion.
Du coup, comme j'étais partie sur cette idée de l'assistante d'un grand pianiste, mais en inversant les rôles, parce que c'est quand même vachement moins courant, enfin, alors que c'est très courant hein, qu'une femme assiste son mari, mais dans l'autre sens, c'est moins courant. Je suis partie sur cette idée, après, en écrivant, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette scène, en fait, de l'homme qui est plus dans l'abstraction, sur... Enfin voilà, l'image classique du mec qui est sur son téléphone en train de lire le journal ou en train de faire une partie d'échecs. Voilà.
Vous avez pensé à Godard, tu les aimes mes fesses, voilà. Tu l'aimes mon caleçon, c'est un
ouais,
peu
c'est ça.
Hein, c'est un peu Jonathan Cohen en Brigitte Bardot, c'est votre
ouais, c'est ça, c'est vraiment l'inversion enfin de l'homme. Enfin, en tout cas, Marina, qui est dans d'autres sphères, qui a d'autres choses à penser, qui pense à l'art, qui pense à la musique classique, qui pense à sa carrière. Et lui, qui pense au rôle qu'il a à jouer vis-à-vis d'elle et est-ce qu'elle le regarde ou pas, quoi.
Mais à son bien-être à elle. Il est tout dédié
ouais,
à sa femme.
Il est dédié à sa femme et... Et en même temps, je pense qu'il y a aussi une forme de malaise dans cette scène. Enfin, à un moment, on se dit, c'est un peu sec, finalement, comment ça se passe. Mais je pense que si c'était dans l'autre sens, ça choquerait moins.
Ça te stresse ? Tu veux que je te détende ?
Ah oui, je veux bien, ouais.
Bien ?
Voilà. C'est ça, il y a un petit moment de détente sexuelle, je sais pas trop comment le dire, Sophie Le Tourneur.
Bah, c'est comme.
Mais en fait, oui, c'est comme dit Sophie, c'est l'homme jacuzzi, quoi. Il lui propose un service.
Ouais. Bah, c'est vrai que moi, je trouvais ça aussi intéressant de parler de l'hygiène sexuelle du point de vue d'une femme, mais comment une femme, au même titre qu'un homme, je sais pas, qu'un artiste avant un concert ou un homme politique avant un discours a besoin d'expulser nerveusement et sexuellement, quoi. Donc je pense que les femmes aussi, ça peut leur faire du bien d'avoir un orgasme avant un truc important qu'elles ont à faire. Ça marche aussi chez les femmes.
Et puis Sophie le Tourneur, vous montrez le concert, enfin vous montrez Marina Foïs, Claire au piano. Là, vous avez aussi demandé de la part de vos comédiens, enfin en l'occurrence de votre comédienne Marina Foïs, une véritable implication physique dans la pratique pianistique.
Oui, elle a pris quelques cours. En plus, moi, ça m'arrangeait parce qu'elle les a pris avec la prof de piano Ayala, qui joue donc le rôle de la prof de piano. Donc moi, c'était plus pour qu'il y ait quelque chose qui se passe entre elles et pour assister aussi aux séances. Moi, ça me donnait des idées après dans l'écriture pour le film.
Tiens, ma chérie. Voilà, on va mettre soit terre de Damas là, soit on met aubergine et compagnie.
Non, mais vraiment, je m'en fiche, hein, mais celle que tu veux.
Ah non, c'est pas moi qui vais la mettre.
Donc, on comprend, moi j'aime beaucoup cette scène. Hein, donc, on est toujours en intérieur jour, dans c'est cette salle de concert où Marina Foïs se prépare au concert du soir. Et j'aime beaucoup cette scène parce que en deux plans. En deux répliques, on comprend un peu le pacte qui les unit, qui a un pacte très particulier. Hein. En deux mots, on pourrait dire amour et admiration et aussi servitude totale de l'homme vis-à-vis de sa virtuose de femme.
Ouais, puis je pense que cette phrase, quand il dit quelle robe tu veux mettre, elle est au-dessus de tout ça. Donc encore une fois, c'est l'homme très terre à terre et la femme dans d'autres sphères plus intellectuelles. Et qui a dit n'importe lequel, et il dit c'est pas moi qui vais la mettre, mais voilà, pour moi c'est ça résume complètement le film, quoi. C'est pas moi qui vais le porter. Mais en même temps, il aurait bien aimé.
Ouais. Elle est longue cette ouverture, cette installation, comme s'il fallait prendre vraiment le temps avant que l'histoire ne commence de bien poser la nature très particulière de ce qui les unit en fait.
Ouais. Puis aussi de bien comprendre. Pour moi, c'était important que Marina, enfin que le personnage de Claire, de cette pianiste, on comprenne que c'était quelqu'un vraiment d'hors norme, comme le sont ces grands pianistes, pour pas qu'on la juge dans la réaction qu'elle a après avec la grossesse. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce personnage, c'est comme une facette de quelque chose de plus universel qu'on peut ressentir, parce que c'est très mélangé ce qu'on ressent quand on est enceinte. Donc c'était juste cette petite facette-là que je voulais exposer, mais je veux pas qu'on la juge, elle, en tant que personne, en fait. Et je voulais surtout pas qu'on juge cette facette-là, parce que cette facette-là, on n'a pas à la juger, on a le droit de la ressentir. Et c'est pour ça que j'en ai fait quelqu'un vraiment d'à part et presque un peu handicapé, entre guillemets, de quelque chose, quoi. Handicapé du monde plus instinctif, plus animal, et quelqu'un qui n'est pas terre à terre. C'était hyper important.
Et le temps passe très vite dans ce premier quart d'heure parce qu'on voit la répétition, les hôtels de luxe, toujours un peu les mêmes, toujours un peu les mêmes meubles, les mêmes couleurs, ouais. Les mêmes décors, toujours les mêmes types de personnes qui les reçoivent, qui posent les mêmes questions. Quand on voit le question-réponse à la fin du concert, on se dit, mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça après un concert? Ça, c'est plutôt un truc de cinéaste, non?
Ben non, pas
du vécu.
Bah complètement, non, c'est moi tout ça, c'est des trucs voilà qu'on m'a raconté. Alors première étape, c'est qu'on me les a racontés. Deuxième étape, c'est que je les ai reconstitués. C'est-à-dire par exemple la scène à l'ambassade. Quand j'ai trouvé mon ambassadrice, je lui ai dit bon bah voilà, maintenant est-ce qu'on peut organiser un concert à l'ambassade? Donc vous invitez votre carnet d'adresses, parce qu'eux ils en font souvent des concerts. Donc ils ont fait comme d'habitude. Je dis, je vous fournis la pianiste, parce que c'était une des pianistes, s'appelle Céline Daudet, qui m'a beaucoup aidée sur le scénario. C'est elle qui m'a confié l'histoire du second pilote d'ailleurs. Et quand les gens viennent la féliciter, c'est du documentaire. En fait, ils viennent féliciter Célimène. C'est Célimène qui est à côté de la caméra.
Alors, je vous propose d'arrêter ici le commentaire des premières minutes de votre film, Sophie Le Tourneur, parce que on va juste, sans déflorer, dire que bientôt un événement va survenir dans un avion, un accouchement, qui va être une sorte de révélation pour Frédéric, qui tout à coup n'aura plus qu'une idée, avoir un enfant de Claire, se débrouiller par tous les moyens pour que cette femme qui ne veut pas avoir d'enfant tombe enceinte. Alors en général, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la femme qui veut un enfant et l'homme qui ne veut pas. Là aussi, ça vous amusait de retourner le cliché comme une peau de lapin
À la fois, c'est un cliché et en même temps, cette dissymétrie-là dans le couple, elle existe aussi dans l'autre sens. Enfin, moi, je connais des gens... Ouais, il y a des couples où, alors peut-être pas pour le premier enfant, c'est peut-être pour le deuxième ou le troisième, où l'homme a un plus fort désir d'enfant que la femme. En fait, c'est aussi quelque chose qui existe.
Mais en général, c'est quand même plus facile pour une femme d'avoir un enfant et de le dissimuler à son conjoint que l'inverse. Voilà. Ça paraît quand même mission impossible, sauf dans ce cas très précis, puisque Claire, on l'a bien compris, est tellement éthérée, tellement dans sa bulle, elle ne s'occupe tellement pas du quotidien qu'en fait,
oui, lui, il contrôle sa vie. Voilà, il contrôle sa vie et c'est ça que je trouve intéressant. C'est à la fois, on se dit, oh, bah, le pauvre, il se tape tout, mais en même temps, il a quand même le contrôle. Donc
c'est lui, par exemple, qui lui donne tous les jours sa pilule.
Voilà.
Ou pas.
Alors, vous avez créé un vrai couple de cinéma, Jonathan Cohen, Marina Foïs. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand on a créé un vrai couple de cinéma, c'est quand le spectateur se dit, oh! Mais c'est incroyable, c'est évident, mais je n'y avais jamais pensé avant. Et c'est vraiment ce qu'on dit, ce qu'on se dit en les voyant tous les deux. Alors Sophie Torlotin les a rencontrés en juin, quand le film faisait son avant-première. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle leur a posé comme question, Sophie, le tourneur?
Ah ben ça, je sais pas. Mais
comment vous la voyez? Comment vous la voyez?
Une petite dictatrice.
Mais quand même avec, c'est quand même une aventure folle. Ça devait faire un mois de tournage, on en a fait trois. Mais c'est ça qui est fantastique. On a vécu une aventure qu'on vivra jamais autre part avec qui que ce soit, je pense. C'est trop fou.
Oui, tout est très singulier, autant le sujet que la manière de le traiter, ouais. Que le fait de tourner avec une équipe composée de 5 personnes. Elle a une audace. Le nom n'existe pas dans l'univers de Sophie Le Tourneur. C'est-à-dire qu'on a débarqué un jour, je sais même plus dans quelle ville on était, Munich peut-être, dans un hôtel 4 étoiles dans lequel tout d'un coup, il lui a paru très très important de filmer une scène à l'accueil. Et elle a réussi à obtenir les autorisations et à obtenir des gens de l'hôtel qui jouent dans la scène avec Jonathan. On ne sait pas comment elle obtient des oui, mais je crois que personne ne lui dit jamais non.
C'est impossible de lui dire non.
Personne ne lui dit jamais non. C'est un compliment, Sophie Le Tourneur.
Ouais, c'est un compliment. C'est un compliment. Après,
à double tranchant.
Ouais, peut-être un peu aussi, mais mais...
Vous aviez l'air étonnée quand même à les entendre.
Si, des fois on me dit non, c'est des fois on me dit non, bien sûr qu'on me dit non.
Moi, quand je les ai rencontrés, ils étaient dithyrambiques.
Ah ouais.
Et ils sont épatés, ils n'ont jamais vécu un tournage comme ça, que c'était incroyable. C'est un peu ce que vous racontiez un peu avant avec la scène de l'ambassade, à savoir... Vous avez des idées et puis vous arrivez à mettre en projet quelque chose qui pourrait sembler impossible, voire qui pourrait mettre peut-être un an, deux ans à se monter et vous, paf.
C'est pas seulement moi. C'est ce qu'il y a, c'est que je fais vraiment les trucs avec avec les autres et c'est basé sur des rencontres. Et en fait, quand je rencontre quelqu'un et quand j'ai envie de le filmer ou par exemple l'ambassadrice, j'ai senti que tout de suite, voilà, elle était dans le truc, je l'ai bien senti et elle m'a beaucoup donné. Et je pense que je lui ai beaucoup donné aussi, mais c'est vraiment un travail d'équipe.
C'est ce qu'on se dit quand on voit le film. On voit des trognes, on voit des visages qu'on ne voit jamais au cinéma. J'ai vu le film moi sans avoir rien lu dessus, j'avais pas lu le dossier de presse et je me dis mais comment, enfin qui sont ces gens, et en fait ce sont des véritables personnes. Évidemment, ce ne sont pas des acteurs.
Non.
C'est ce que vous dites. Vous filmez une réception à l'ambassade, c'est vraiment une ambassadrice que l'on voit à l'écran.
Ouais. Et la dame qui est à côté d'elle, c'est son assistante. Voilà, elle a été super aussi. Après, j'en ai rencontré plusieurs. Je prends pas la première personne que je rencontre. C'est vrai qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que j'aie envie de filmer quelqu'un et qu'il ait envie aussi d'être filmé par moi. Parce que comme c'est des gens qui sont pas comédiens, ils peuvent tout à fait me dire non. Et ça, c'est aussi agréable. Je sais que quand quelqu'un me dit oui, eh ben, il a vraiment envie de le faire et c'est pas pour des raisons d'argent ou c'est pas pour des raisons. C'est juste qu'il a envie de le faire parce que voilà, on va bien rigoler.
Mais du coup, quand vous filmez, par exemple, toujours pareil, cette scène à l'ambassade, il n'y a fatalement pas Jonathan Cohen et Marina Foïs avec vous.
Ah, ils étaient là.
Vous disiez que c'était celle qui répondait
Alors, qui répondait pas à l'ambassadrice, mais qui répondait, ça c'est pour aider aussi les gens, donc les gens qui sont venus la féliciter au début.
Célimène Daudet, ou?
Voilà, Célimène. Je pense qu'ils étaient beaucoup plus naturels en félicitant vraiment Célimène Daudet. C'est-à-dire que c'était juste après le concert, on a mis la caméra, Célimène Daudet juste à côté, il y avait une file d'attente, et ils venaient tous à la queue leu-leu leur dire ce qu'ils avaient pensé du concert, mais ils s'adressaient vraiment à elle. Alors que si j'avais mis Marina Foïs, bah, ils auraient été troublés, en fait. C'était pas le bon dispositif.
Vous faites des raccords, c'est un jeu de montage.
Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est toujours de trouver le dispositif pour que le réel puisse s'insérer dans la fiction. Et ce que j'ai vraiment envie de filmer, que ce soit là et que ce soit pas faux. C'est aussi dans le dispositif pour que les acteurs non professionnels soient à l'aise. Je les laisse parler avec leurs propres mots dans les répétitions et je réécris tout avec leurs propres mots. Donc tout est... Ça sort pas de mon stylo, en fait. Voilà. Sort d'eux.
Et Marina Foïs, le personnage est étonnant parce que effectivement vous parliez du côté un peu autiste des grands pianistes virtuoses, mais il y a un écart énorme entre le génie qu'elle est censée avoir et puis sa forme d'absence qui est très particulière. Vous l'avez presque hubertisée. C'est rare qu'on la voit comme ça.
Oui, je pense que c'était vraiment un challenge pour elle de lâcher pas mal de choses et je trouvais ça intéressant parce que ça correspondait finalement au personnage. Enfin, dans un autre style, dans le film, elle veut pas lâcher certaines choses. Puis à un moment, justement, l'hypnotiseur, elle lui dit « Mais est-ce que ça vous arrive de lâcher prise ?» Et là, c'est là où il y a la bascule un petit peu dans le film. Mais bon, elle lâche pas la même chose. Mais c'est vrai que Marina, elle a dû lâcher aussi à un moment sa façon de jouer, son humour, sa position, même son ton par rapport à la vie pour être dans ce personnage qui est réservé, qui est très doux, qui est absolument premier degré, total. Donc pour elle, c'était un vrai rôle de composition et il lui ressemble pas du tout.
Vous tournez toujours comme ça ou il y a quelque chose de nouveau dans ce film ?
J'espère qu'il y a un truc nouveau. C'est vrai que pour chaque film, c'est vraiment l'idée du dispositif. C'est-à-dire que moi, pour chaque film, je sais ce que je veux filmer. Même si c'est pas une théorie, il y a quelque chose. Par exemple, je sais que je voulais filmer un visage de bébé qui vient de naître. Je voulais pas filmer un visage de bébé qui a 3 mois, quoi. Voilà. C'est dire oui, c'est dur. Oui, c'est hyper bizarre d'avoir un enfant qui est terminé dans son ventre parce qu'au 9e mois, le bébé est terminé. Donc, il peut être soit dedans, soit dehors. Et ben, c'est ce visage-là que je veux filmer. C'est celui qui peut être dedans ou dehors. Et à un moment, juste, il est dehors. Et c'est hyper émouvant. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, mais pas dans le côté « Ah, il est mignon ». C'est un truc beaucoup plus mélangé que ça. Et donc, le dispositif, il est né aussi de ça. C'est-à-dire comment contourner les choses pour pouvoir filmer. Parce que le problème avec le... Filmer le visage d'un nouveau-né dans une fiction, c'est interdit par la loi.
Ah bon ?
Ouais.
Et comment vous avez fait, du coup ?
Bah, j'ai fait un tournage documentaire. Pendant un mois, en amont du tournage fiction. Là, j'ai eu toutes mes images documentaires. Et après, j'ai pris des images. Enfin, j'ai fait mes choix, parce que du coup, j'ai filmé énormément de bébés, d'accouchements, aux urgences aussi et tout ça. Et une fois que j'avais choisi, j'ai construit les contre-champs. Par exemple, le bébé qu'on voit à la fin. C'est un plan que j'ai fait ensuite de couche. Il était dans les bras de son papa. C'était en plus un des bébés qui avait. Enfin, c'était le bébé qui se fait désencombrer à la naissance quelques jours avant dans le film. Et en fait, ils sont jamais dans le même plan avec Jonathan. Donc, c'est vraiment un plan documentaire. Et deux mois plus tard, une fois que j'avais vraiment fait mon choix sur le bébé que j'avais construit, j'avais fait un espèce de montage à trous. Il fallait faire les plans raccords. Donc, il fallait que Jonathan ait le pull du papa qu'il avait ce jour-là. Voilà, pour faire le plan qui pouvait faire le raccord. Mais en fait, ils sont jamais dans la même image, quoi. J'avais envie de filmer ça et ça m'intéresse.
Je pense que le plaisir que vous avez et l'envie que vous avez de le filmer sont très, très communicatifs.
Ah, bah, tant mieux, alors.
Merci beaucoup, Sophie Le Tourneur.
Bah, merci à vous.
Énorme, votre nouveau film à ne rater sous aucun prétexte est en salle depuis mercredi. Une pause musicale avec Grégory Porter et l'on retrouve l'autre Sophie Torlotin qui va nous parler du festival d'Angoulême, donc le premier festival à se tenir, enfin le premier grand festival à se tenir en France depuis le début du mois de mars. With a million stars in the galaxy. When I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around with me. With a million miles of odometry and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low, let my people know I'm on drop down, slicing through the strand. My life is moving under me before I touch the ground. 30,000 feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. Après un été plus que morose, une fréquentation en chute libre, c'est la reprise, enfin peut-être la reprise, avec Tenet de Christopher Nolan et Effacer l'historique de Gustave Kervaen et Benoît de Lépine attire les spectateurs. Et puis Sophie, vous rentrez d'Angoulême où c'est tenu, et ce n'est pas une mince victoire, le festival du film francophone lancé voici 12 ans par Marie-France Brière et Dominique Besnéard.
Oui, vous avez raison de souligner la victoire hein, dans la tenue même de ce festival, hein, le traditionnel rendez-vous de rentrée du cinéma français, alors que Cannes a été annulé et que les médias nous annoncent un rebond épidémique, voire une deuxième vague de la pandémie, eh bien Angoulême a accueilli pendant 6 jours du public, 27 000 billets, la jauge a été réduite par rapport à l'an dernier où il y avait eu 40 000 spectateurs et puis des stars, hein, c'est déjà incroyable. Alors écoutez le soulagement du délégué général Dominique Besnéard.
Il y a beaucoup de films qui sont restés sur les étagères et il fallait absolument que qu'un jour on les présente. Et donc il y avait cette peur de se dire est-ce qu'à quel moment les salles vont réouvrir. Donc les salles ont réouvert au mois de juillet. Alors après, il y a toute cette polémique en disant les gens ne veulent plus aller au cinéma, ça m'énerve beaucoup, parce que nous, on savait qu'il y avait des films bons qui demandaient à être présentés. Mais pour un distributeur indépendant, il vaut mieux attendre quand la vie reprend, et la vie artistique reprend, et que le renouveau est là. Donc on a eu peur, parce que de se dire tout préparé pour un jour, et avec le rebond d'il y a deux semaines, ou il y a une semaine, on s'est dit, ben ça y est, et là... On est là, on peut plus revenir en ailleurs. La preuve, c'est que on a même la récompense d'avoir le Premier ministre et la ministre de la Culture. Donc ça veut dire que c'est un signe.
Voilà, effectivement, hein, Dominique Besnéard peut se targuer d'avoir reçu à Angoulême la ministre de la Culture et le Premier ministre français Jean Castex.
Oui, Jean Castex qui n'est pas venu les mains vides. Il a affirmé à plusieurs reprises vouloir soutenir les salles de cinéma. Il a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 165 millions d'euros pour le CNC, charge à lui de répartir la somme hein, entre les exploitants, les producteurs, les distributeurs. Et puis, il a aussi annoncé vouloir mettre à contribution les plateformes de streaming, moyennant un donnant-donnant.
Les plateformes américaines contribueront au financement de la production indépendante, garante de la diversité de la création, à la fois audiovisuelle et cinématographique. Nous leur fixerons des objectifs ambitieux, et nous porterons une attention particulière au respect du droit d'auteur. Il faudra que les acteurs rediscutent très vite de la chronologie des médias, car les deux questions sont liées. Le gouvernement y sera, chère Roselyne, attentif. On ne peut pas exiger beaucoup des plateformes et leur imposer des délais de diffusion aujourd'hui prévus.
Voilà, à ma connaissance, Elisabeth, hein, c'est la première fois qu'un homme politique conditionne aussi directement la contribution des plateformes au financement du cinéma indépendant à la redéfinition de la chronologie des médias. Alors, la chronologie des médias, c'est ce calendrier qui privilégie la sortie des films en salle plusieurs mois, voire plusieurs presque années avant leur diffusion à la télévision ou sur Internet. Voilà, donc on a de sérieuses et de longues discussions en perspective.
Alors voilà pour les aspects économiques et politiques d'Angoulême. Sophie, mais quid des films ? C'était bien ?
Ouais, moi ce que j'ai vu s'annonce, vraiment annonce une rentrée de très bonne tenue, que ce soit les avant-premières de Prestige ou les films indépendants. Il y en avait 10 en lice pour le Valois de Diamant.
Le Valois de Diamant qui échoit à...
Eh bien, le Valois de Diamant est attribué à Ibrahim, le premier long métrage de Samir Ghesmi, qui reçoit également un prix de la mise en scène et du scénario. Ibrahim raconte l'histoire de la relation compliquée d'un jeune garçon avec son père Ahmed, joué par Samir Ghesmi lui-même. On aura l'occasion de vous en reparler puisque ce film sortira normalement sur les écrans le 2 décembre prochain.
Et vous allez nous partager aussi vos coups de cœur. Sophie, on commence avec Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait. C'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret qui sort en salle très bientôt, le 16 septembre prochain.
Maxime ?
Oui ?
Je suis Daphné, la compagne de François.
Ah. Bonjour.
Bonjour. Bon, il est vraiment désolé, mais je pense qu'il sera là d'ici 2 ou 3 jours normalement.
Avant de partir, François m'a dit que t'allais pas très bien à cause d'une histoire d'amour un peu douloureuse, je crois.
J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça.
Non, vraiment, je t'assure, il y a aucun risque que ça m'ennuie. Et puis moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Je suis déjà mariée.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, bande-annonce d'Emmanuel Mouret. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce film brillant qui parle justement du cœur dans tous ses états. Deux jeunes gens, Daphné, Camélia Jordana, Maxime Nils Schneider, le cousin de son compagnon, se retrouvent seuls quelques jours dans une maison de vacances. Ils décident de se raconter leurs histoires d'amour, même les histoires d'amour aussi de leurs amis, et en se racontant ces histoires, ils vont tomber eux-mêmes amoureux. Donc c'est un film en forme de poupée russe, hein. Il y a plusieurs histoires enchâssées les unes dans les autres. C'est merveilleusement écrit et interprété. La grande affaire du cinéma d'Emmanuel Mouret, que l'on rapproche souvent de celui de Romer, c'est l'amour. Et c'est aussi le goût de la parole, le goût des dialogues.
Et le goût des mensonges.
Je trouve assez souvent que dans le cinéma contemporain, on parle un peu trop peu. Autour de moi, dans les cafés, et notamment autour, on va dire, des questions de désir, de sentiments, on parle beaucoup et que la parole est un enjeu très, très cinématographique. La parole est une forme d'action aussi, et un mot peut blesser ou enchanter davantage que certains gestes.
Et puis, il y a évidemment le jeu entre ce que les personnages disent et ce que l'on voit à l'écran.
Oui, alors le titre est quelque chose en effet de programmatique, mais c'est un programme qui est lié au cinéma parlant. À partir du moment où un personnage dit ben, « je vais faire ça », nous en tant que spectateurs, on est dans une situation d'attente, de voir, voilà. Et le cinéma permet de jouer et avec ce suspense et avec la surprise de cet écart entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ou « moi je suis ça », mais... On va voir avec le temps. Donc, il y a quelque chose de très ludique. Donc, oui, rarement on fait exactement ce qu'on a dit.
Et pour écrire toutes ces histoires d'amour, Emmanuel Mouret, vous êtes inspiré de ce que vous avez entendu, des histoires de vos amis, par exemple, ou justement si vous écoutez dans les cafés ce que se racontent les gens.
Non, je m'inspire, c'est les situations qui m'inspirent, c'est des idées de situations qui proviennent peut-être, parfois d'histoires que j'ai entendues, ou parfois tout simplement de mes rêveries, de mon imagination. Et on peut dire que l'histoire est construite à partir d'une série de situations fantasmées, mais qui pourraient tout à fait être réelles et concrètes, comme un peu le... Autant la situation entre Nischneider et Camélia Jordana que celle entre Vincent Macaigne et son ex-compagne Émilie de Ken. Donc c'est des situations. Des situations parce qu'elles sont propices à de l'attente, de la surprise, du suspense. Et parce que c'est mon but, hein, l'idée d'un plaisir de cinéma.
Chaque personnage, pour différent qu'il soit, et en fait placé à chaque fois dans une sorte de dilemme et de choix entre le désir, enfin l'impulsion ou un choix plus raisonné. Et en fait, ils aimeraient tous savoir tout à la fois en fait. Est-ce que c'est un film sur le choix ?
Oui, mais je pense qu'on est confronté au choix en permanence. Les enfants, on met beaucoup d'années, et encore on n'y parvient jamais tout à fait, puisque ça demeure entre adultes, à les libérer, on va dire, de la tyrannie de leurs pulsions. Mais les pulsions continuent à nous tyranniser. Et quand je parle de pulsions, je parle de sentiments, de désirs amoureux ou de désirs sensuels. Et d'un autre côté, nous sommes des individus sociaux. On vit avec les uns et avec les autres. Et pour beaucoup de ces individus, on les aime, on n'a pas envie de les blesser, on a envie d'être quelqu'un de bien. Et ce qui passionne, je pense, dans les histoires d'amour depuis la nuit des temps, ou du moins depuis l'Antiquité, c'est ce conflit au sein des personnages de désir antagoniste, celui de demeurer un homme social, on va dire bon pour la communauté d'hommes, et à la fois quelqu'un qui veut réaliser ses appétits, ses pulsions, qui sont bonnes pour son propre épanouissement. Et donc ce conflit-là, c'est pour moi, c'est le conflit auquel on est porté quasi quotidiennement et qui nous porte en permanence à des choix, des choix et des questions morales, quelque part, voilà, des questions morales.
Emmanuel Mouret, hein, sur son nouveau film « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », sorti en salle très bientôt, le 16 septembre. Et autre belle rencontre que vous avez faite, Sophie, celle de l'acteur Nicolas Maury, donc connu hein, du grand public pour son rôle d'agent Pipelette dans la série 10%, et qui là passe à la réalisation.
Oui, avec « Garçon chiffon hein, », c'est le titre de ce premier long-métrage largement autobiographique. Nicolas Maury joue d'ailleurs le premier rôle de ce film sur un comédien, Jérémy Meyer, maladivement jaloux de son amant, en crise professionnelle et personnelle, qui va retourner chez sa mère, Nathalie Baye, à la faveur de l'enterrement du père.
Ça raconte quoi ?
Tu me fais le speech?
Le pitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
C'est pour toi.
Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà.
Pourquoi on veut pas de moi?
Pour ces cons-là, tu es trop.
Trop?
Albert, tu rejoins chez sa mère?
Bah non, on est en froid.
T'as regardé dans mon téléphone?
J'aurais une raison de le faire.
Monsieur, le cabinet est fermé.
C'est qui?
Qu'est-ce que tu fais là?
Je suis son mari, monsieur.
On n'est pas mariés, tu sors d'ici.
Tu sors!
Soigne ta jalousie.
Alors, Garçon chiffon, c'est un film qui n'est pas dénué de maladresse ou de longueur, mais qui atteste aussi, enfin, qui a un peu l'acte de naissance, en fait, d'un cinéaste, Nicolas Maury, qui montre une véritable liberté dans la mise en scène, une authenticité aussi.
Je campe Jérémy Meyer, un acteur qui galère, et sans me la jouer non plus, je galère pas trop, mais je comprends par contre tout à fait que parfois certains acteurs. Et la nécessité vraiment de mettre en scène le monde même. Parce que moi, je crois qu'un acteur, quand même, au bout d'un moment, devient auteur de ses rôles quand il travaille pour des autres. Et donc, on tutoie ce que c'est que l'autorité, cette façon de signer ses rôles. Donc, pour moi, c'était comme un organe que j'avais toujours en moi, cette façon de regarder les autres. C'est pas tellement moi-même, c'est vraiment, j'adore regarder mes partenaires, même avant une prise, j'adore voir une rougeur sur un visage, voir une panique dans l'œil de... Et je me dis, tiens, moi, je la filmerai à ce moment-là, ma partenaire, et puis voilà. Ça j'évolue en secret, comme ça, sur... Et quand j'ai été prêt, j'ai fait ce film. Et je sais que je veux en faire plein d'autres, mais c'était le mouvement naturel de filmer... ma fréquence, ma façon, mon cinéma à moi.
Et Jérémy va finalement opérer un retour aux sources, c'est ça? Et est-ce que vous-même, vous êtes issu du Limousin, c'est ça?
Oui.
Vous avez filmé sur vos terres, enfin, si je puis dire?
Oui, si, c'est mes terres. C'était aussi un projet du film, c'est que j'ai voulu filmer la mer, Nathalie Baye, comme une région aussi. C'est parfois, quand on dit « Oh, je vais dans ma famille, je vais voir ma mère », je voulais vraiment redonner... du sang, de la beauté à toutes ces places un peu trop figées qu'on peut fabriquer dans nos vies, notre terre d'enfance. On peut être saoulé par les choses, par la mer, et là j'ai voulu leur redonner leur autorité et leur pleine saveur, leur plein charme. Et j'ai filmé la terre du Limousin comme j'ai filmé Nathalie. De toute façon, dans mon film, je filme des visages, paysages. Je filme des paysages comme des êtres humains et puis les visages comme des paysages. Pour moi, les nuages qui passent sur la tête et les acteurs, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, je crois.
C'est vraiment le rapport à la mer qui est le cœur du réacteur, non, de ce film.
Oui, vraiment. Ce film aurait pu s'appeler Vers Bernadette ou voilà. Parce que c'est... Souvent, quand il y a des personnages homosexuels au cinéma, la mère est soit hystérique, soit problème, soit elle accepte pas. J'ai voulu donner vraiment comme rencontre à chorale, chacun son point de vue. Et en ça, j'ai pas fait une mère casée, une mère définie. J'aime bien, elle contredit Jérémy, mais ils renouvellent cet été-là leur amour. Et ça, j'y crois beaucoup. Ma mère a vu le film hier et ça... Ça a renouvelé, je pense, quelque chose, quoi. Et c'est pour moi, c'est ça le cinéma, c'est de permettre des réparations, des nouveaux liens.
Ouais, c'est une belle déclaration. Il y a une formidable séquence d'ailleurs avec Nathalie Baye sur une. Alors, est-ce que vous pouvez me parler du choix de la musique? C'est Anne Sylvestre.
C'est Anne Sylvestre, c'est ma chérie. Cette chanson était là dès le début. Du reste, la première scène écrite, c'était cette scène, j'ai rien touché, entre la mère et le fils. C'est ce qui a donné, l'envie du film. C'était vraiment cette scène-là, de cet été-là. Et ma chérie, je trouve que c'est une mère qui chante ça à sa fille. Et je trouvais ça intéressant qu'elle... C'est son fils, mais qu'elle lui chante comme à une fille. Et ne retiens pas tes ailes, ma chérie. Et elle lui dit, mais toi, tu en as de plus belles aussi. Donc, et la fille permet à la mère de s'envoler aussi.
Mais tu en as de si belles, toi aussi.
Ne cherche pas à comprendre. Moi, je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre que la
Alors l'un des plaisirs d'Angoulême aussi, c'est de découvrir en avant, avant-première, hein, toutes les grandes comédies de l'hiver, Adieu les cons, par exemple, d'Albert Dupontel.
Oui, dont on vous reparlera puisque elle sort, enfin ce film sort en octobre.
Et enfin, Sophie, Angoulême, ce ne sont pas que des fictions, parce qu'on y voit aussi des documentaires.
Oui, comme Africa Mia, hein, l'incroyable histoire des Maravillas de Mali, un groupe de musiciens maliens qui ont été formés à Cuba dans les années 60. Ils sont complètement tombés dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un producteur de musique, Richard Minier, les découvre totalement par hasard au début des années 2000, lors d'un voyage à Bamako. Richard Minier va leur consacrer 18 ans de sa vie, hein, essayant de retrouver chaque musicien, il veut recomposer le groupe, et à chaque fois il tourne au gré de ses voyages au Mali, donc il a une énorme matière documentaire. Son ambition, donc, faire revivre le groupe devenu culte, c'est donc aussi ce que raconte ce documentaire co-réalisé avec Édouard Salier. Édouard Salier et Richard Minier, que j'ai pu rencontrer à Angoulême.
Ce qui m'a fasciné dans cette histoire, en fait, c'est la volonté de Richard sur ce projet de ne jamais le lâcher, sa pugnacité. Et finalement, je crois que, comme disait Richard, en fait, ce qui aurait pu être un documentaire un peu classique a été un petit peu détourné vers l'histoire des Maravillas, mais aussi l'histoire de la quête de Richard Minier, qui est une quête insensée qui dure des années. Et je crois qu'en fait le film, c'est pas uniquement un film, un documentaire musical, c'est aussi l'histoire du temps qui passe, c'est l'histoire de Richard et de Boncana, de cette amitié naissante, de leur relation, et c'est une histoire sur la vie et pas que sur la musique.
Mais les Maravillas, vous découvrez totalement par hasard, même musicalement vous les aviez pas entendus. Est-ce que vraiment c'était un groupe culte? Parce que là, vous avez complètement exhumé. C'est comme vraiment comme un archéologue, en fait.
C'est un groupe culte dans la mesure où l'héritage des Maravillas, après, sur la musique du monde, a eu un impact, puisqu'il y a eu Africando. Et Africando, c'est le début des années 90, et ce sont des musiciens africains qui jouent de la musique cubaine. Mais dans Africando, qui est derrière? C'est Boncana Maiga et Maravillas. Donc le parcours et l'expérience de Boncana Maiga a fait que lui, toute sa vie, il a essayé de refaire du Maravillas, en fait. Voilà, en produisant des artistes, en mélangeant la musique cubaine et africaine. Et surtout, c'est le groupe des indépendants, c'est-à-dire qui représente cet aspect méconnu des pays africains qui vont connaître le socialisme et l'expérience socialo-communiste en Afrique pendant quelques années. Et donc, où l'espoir est permis, où il y a des échanges avec l'université Lumumba pour le cinéma à Moscou. Et ce groupe est au balbutiement d'une sono mondiale qui n'existe pas encore, qui mélange le bambara, la musique cubaine, la musique africaine, le français, Rendez-vous chez Fatimata. Donc c'est quand même un album ovni qui a traversé l'Atlantique, qui a été un succès à Cuba et qui a un succès dans toute l'Afrique. Donc oui, le groupe est culte, le groupe est méconnu et le groupe maintenant revient dans l'histoire. Ils ont rempli la Philharmonie, le Barbican à Londres, ils ont tourné en Allemagne. Enfin voilà, donc il y a une exhumation et une remise dans l'histoire de la musique de ce groupe.
Rendez-vous chez Fatimata, justement, on se quitte en musique avec ce tube des Maravillas des Mali. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Pérou.
À la réalisation, Fanny Renard. Rendez-vous la semaine prochaine, on vous fera un compte-rendu de la Mostra de Venise qui a ouvert ses portes ce mercredi. Et un état du monde, voilà, un état des lieux du monde du cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Rendez-vous avec moi. C'est Fatimata, nous allons danser jusqu'à l'aube, mon amour.